Nous avions observé que les réunions de Davos, qui étaient des réunions publiques et à grand fracas, étaient exclusivement orientées autour d'un bipôle politique-économie. Or, s'il y a une expérience que nous avons tous depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'importance de la recherche scientifique, des résultats scientifiques et de l'émergence des technologies dans ce qui est en gros l'économie ou la nouvelle économie. Or, le dialogue entre scientifiques, hommes d'affaires et public, grand public, disons, n'est jamais réellement intervenu. Alors, l'idée que nous avons eue, Jacqueline Caron et moi, a été la suivante. Inviter une personnalité scientifique convenablement choisie parmi les meilleurs spécialistes de tel ou tel problème, de faire ici au domaine une fois une conférence avec le public, les clients de l'hôtel ou les gens de la région. Alors chacun d'entre nous, ou à peu près, avons déjà fait une conférence ici. Et avons déjà dialogué avec le public. Mais nous n'avons jamais mis ensemble l'ensemble de ces scientifiques qui avaient fait des conférences pour mettre ensemble nos résultats, mettre ensemble nos interrogations et discuter avec des gens extérieurs à la recherche scientifique. Alors, nous avons voulu faire cette expérience. Pour quelles raisons? Bien, il se trouve que nous avons deux expériences, nous, scientifiques ou enseignants, sur un certain type de changement. D'abord, nous assistons depuis les années 1950-1970 à un gradient de changement vraiment très vertical. En particulier, parmi nous, ceux qui enseignent, savent que il est maintenant relativement rare que nous enseignions à nos étudiants ce que nous avions appris lorsque nous étions nous-mêmes étudiants. Or ça, c'est relativement nouveau parce que dans les générations qui nous précédaient, le travail d'enseignant était en général celui de faire la passe d'une certaine tradition, d'un certain résumé du savoir scientifique à la génération d'après. Or, aujourd'hui, le changement est tel que, je le répète, il est très rare que cette passe soit faite, et le plus souvent, nous enseignons à nos étudiants des contenus que nous n'avons pas appris quand nous étions nous-mêmes étudiants et qui ont été inventés dans l'intervalle. Et donc, cela fait un changement relativement fort. Et qui était très important du point de vue intérieur, alors à la science, intérieur à la science. Mais depuis les années 50 à 70, il est intervenu un deuxième changement, qui est le suivant. La science, les résultats scientifiques et les innovations technologiques ont pénétré de manière si importante la société que la science est devenue ce que nos amis sociologues appellent un fait social total. Et ce que nos amis sociologues appellent un fait social total peut se définir comme suit. Il y a très peu d'endroits de la société, aussi bien dans le lien social que dans les objets manipulés, qui ne soient pas concernés par la science. Lorsque vous prenez votre stylo à bille, lorsque vous vous asseyez sur votre fauteuil, lorsque vous pilotez votre voiture, vous êtes devant des objets ou vous manipulez des objets qui ont été pensés, qui ont été sculptés par la recherche scientifique, la technologie, ainsi de suite, par la chimie, par la physique, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il n'y a pas d'endroit de la science qui n'ait un impact sur la société. Il n'y a pas un endroit de la société qui ne soit pas concerné par les sciences, et il y a très peu d'endroits de la science qui. Alors cet impact-là est double ou triple. Il peut en effet accélérer l'économie ou accélérer l'évolution de tel ou tel type de pratique sociale, mais il peut aussi poser des problèmes relativement graves à la société. Et là, Vous avez tous le souvenir que dans les années 45, la première explosion de la bombe atomique à Hiroshima a posé ce problème. Je me souviens très bien, à cette époque-là, j'avais moins de 13 ans et j'avais toujours appris de mes professeurs que la science était toute bonne, seule bonne. Cela s'appelait à la fois le scientisme ou l'idéologie ou l'enthousiasme pour le progrès. Et l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima a posé le problème, le premier problème de cette discipline qu'on appelle aujourd'hui l'éthique de la science ou la bioéthique, etc. Et à partir de cela où la physique atomique était concernée, il n'y a pas de moment où une discipline n'ait pas été concernée par un problème de ce genre. La chimie a été concernée par les problèmes d'environnement, dont nous allons parler. Ensuite, la biologie elle-même a été concernée par la question des manipulations génétiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup du clonage et des plantes transgéniques, par exemple, et ainsi de suite. Donc, tout d'un coup, les bouleversements en question n'ont pas seulement touché le progrès lui-même et la croissance de l'économie, mais aussi des questions si fondamentales que non seulement les questions éthiques se sont posées, mais également des questions de type philosophique ou même à la rigueur et à la limite religieuse. Et donc, cette espèce de rapport, le rapport entre la science et la société n'a pas seulement été une compénétration pure et simple, mais a été aussi l'occasion de bouleversements sociaux, de questions posées à la morale, de questions posées à la culture en général et même à la religion. Et donc l'idée était maintenant de faire le bilan de tout ce qui s'était passé dans les 50 années qui nous précèdent, puisque 1945, c'est précisément le moment où les problèmes de physique nucléaire rentrent dans la société et inquiètent l'opinion mondiale, l'opinion publique. Non seulement faire le bilan de ce qui a changé, mais parler de ce qui change aujourd'hui et parler aussi de ce qui changera, d'essayer de faire un peu de prospective. Ce qui a changé, ce qui change et ce qui changera. C'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui en matière de recherche scientifique appliquée à l'innovation technologique, on appelle techniquement innovation le lieu d'ancrage, le lieu de passage entre la découverte contemporaine d'une science donnée et son application technologique. On appelle ça techniquement l'innovation. Qu'est-ce qui se fait en matière d'innovation aujourd'hui? Et éventuellement, qu'est-ce qui se fera demain? C'est toute la question. Et parmi les choses qui se font et parmi les choses qui se feront, doit se poser également la question, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui ne peut pas se faire? Qu'est-ce qui doit se faire et qu'est-ce qui ne doit pas se faire? Et là, on intègre les questions de type éthique ou de type culturel, vous voyez, c'est-à-dire l'adaptation à la société en question. Et c'est pourquoi, devant l'ampleur de ce programme, nous avons tenté d'être peu nombreux. Premièrement, favoriser le dialogue pour que nous puissions parler, que chacun puisse s'exprimer, qu'on puisse vraiment avoir un dialogue ouvert et fécond entre les chercheurs et ceux qui ne sont pas chercheurs. Alors, ici, je vais faire une parenthèse. Je voudrais vous demander à ceux qui ne sont pas chercheurs de poser des questions sans crainte, pour une raison très simple. C'est que la recherche scientifique est aujourd'hui si détaillée, si spécialiste et si importante que nous-mêmes, chercheurs, nous sommes du grand public par rapport à notre voisin. C'est-à-dire, il y a actuellement chez les savants une nouvelle ignorance que nous partageons avec vous tous. Pourquoi? Parce que le physicien qui est à côté de l'astronome et le biologiste qui est à côté du chimiste sont en gros au courant de leur propre science, et encore ils ont de la difficulté à voir la globalité de son propre progrès, mais souvent ils sont assez ignorants ou relativement ignorants ou même complètement ignorants de ce que fait le voisin. Par conséquent, n'ayez pas peur de votre éventuelle naïveté. Nous sommes aussi naïfs que vous en matière scientifique. Il faut que vous le sachiez. Alors, je vous appelle donc à un dialogue le plus ouvert possible. N'hésitez pas à poser les questions, même si elles vous paraissent les plus naïves possibles. Et à la fin de notre réunion, nous essaierons de faire un bilan. Et bien entendu, Jacqueline Caron et moi, et nous tous, nous avons un rêve. Et je voudrais vous dire ce rêve. Nous voudrions donc créer ici ce lieu de discussion, de dialogue, que ce lieu de discussion soit relativement fécond, qu'il puisse fédérer des bonnes volontés et que des gens puissent s'agréger à ce qui deviendra peut-être un jour un club, c'est-à-dire un club de réflexion sur cette question. Et pour le moment, nous avons commencé à la fois de façon modeste, de façon discrète et de façon expérimentale, comme si aujourd'hui nous en étions au numéro zéro de notre club. Comme on dit lorsqu'on lance une revue, le numéro zéro, c'est la réunion numéro zéro. Et nous n'avons pour le moment, de façon expérimentale, que recruter vous-même, qui êtes nos invités d'une certaine manière, et 6 ou 7 spécialistes de telle et telle discipline scientifique. Et notre rêve, ça serait peu à peu, à mesure que le dialogue s'étend, se construit, s'étoffe et devient important, inviter à nos côtés des gens d'horizons différents. Nous n'avons pas, et intentionnellement, invité aujourd'hui, par exemple, de responsables politiques, quel que soit le parti, ou de responsables administratifs des collectivités données, ni français ni européens. Nous n'avons pas invité des gens d'horizons culturels très différents de nous, et nous n'avons pas invité non plus de responsables ou de gens impliqués dans les religions, par exemple. Or, aujourd'hui, les problèmes de société liés aux problèmes de science touchent non seulement l'économie, les hommes d'affaires, certains d'entre vous sont des hommes d'affaires, non seulement l'économie, mais touchent aussi la politique, car il y a une politique de la science et une politique impliquée par les progrès scientifiques et des décisions politiques à prendre à propos de questions scientifiques. D'autre part, cette avancée bouleverse les cultures, notre culture, les cultures voisines et les relations entre les cultures. Par conséquent, il faudrait qu'il y ait parmi nous non seulement des responsables politiques, mais aussi des gens qui réfléchissent sur ce que c'est que le multiculturalisme, par exemple des sociologues, des ethnologues, et ainsi de suite. Et d'autre part, les problèmes de culture sont si profonds aujourd'hui, en particulier pour ce qui concerne le rapport au monde, le rapport aux autres et le rapport à la vie, car les nouvelles technologies de la communication concernent le rapport aux autres, les problèmes d'environnement dont nous allons parler aujourd'hui concernent le rapport au monde, et les questions dont nous parlerons demain à propos de la vie concernent le rapport à la vie, à la santé, à la reproduction, à la maladie et à la mort. Et ces 3 grandes questions, rapport au monde, rapport aux autres, rapport à la vie, se dirige pour certains vers le pôle religieux, c'est-à-dire c'est la question religieuse ou les questions religieuses qui englobent ce type de problème. Donc notre rêve, ce serait qu'un jour, ce club déviant, ou ce club qui commence aujourd'hui dans une manière discrète et expérimentale, puisse grouper des responsables politiques, des responsables culturels, des responsables religieux.